Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipée sauvage.
Il vous accompagne tous les après-midi sur Europe 1, Mathieu Noël, oui, toujours dans la bonne humeur pour nous informer et nous divertir, entouré de sa complice Eva Rock et des journalistes d'Europe 1 engagés dans un concours quotidien, vous le savez, ils bataillent à coups de chronique pour atteindre la première marche du podium. Alors bienvenue dans notre compilation du week-end, au menu de cette première heure, la recette apéro d'Olivier Pouls, la belle histoire d'un luthier qui répare des violons pas comme les autres, les objectifs développement durable s'affichent dans le métro et puis on mettra un coup de projecteur sur le chanteur Sting et son amour du jazz, sur la scénariste et écrivain Amanda Sterz. Mais avant, on va braquer notre projecteur sur une ancienne candidate de la Star Academy qui a fait du chemin, la chanteuse Olivia Ruiz, qui s'est trouvé un penchant pour l'écriture. L'occasion d'en parler, c'était ce mercredi sur Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1. Quel bonheur de vous retrouver pour la première équipée sauvage au complet, en studio, depuis le confinement. Toute la bande est enfin réunie. C'est une immense émotion, même si nous respectons évidemment les distances de sécurité et que le masque est de rigueur dans la rédaction. Mais bon, c'est déjà bien de renouer un peu avec la vie normale. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin.
Il faut mettre un anneau dans son vagin ?
Il faut mettre de l'eau dans son vin, excusez-la. Bonjour Eva.
Oh Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. N'importe quoi.
Vous savez qu'ils font des choses bien en audioprothésie, tout ça.
Ça peut vous aider.
Eva, tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé, oui, sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons chaleureusement, mais hygiéniquement, à un mètre de distance, une artiste qui justement a eu chaud. Bonjour Olivia Ruiz.
Et bonjour, ravie d'être avec vous ce matin.
On est ravis de vous accueillir à nouveau. Vous venez nous présenter votre premier roman, La commode au tiroir de couleurs, qui fait déjà beaucoup parler, car il est très réussi. On va en parler évidemment sur la longueur dans toute l'émission. Mais ma première question est un peu plus prosaïque. Comment allez-vous? Puisque d'après ce qu'on a pu lire dans la presse, même dans la presse people que je lis énormément, vous auriez potentiellement contracté le coronavirus au début de l'épidémie.
Oui, je pense. J'ai passé 2 semaines complètement HS.
Avec les symptômes dont on parle. Avec,
voilà, la totale. Oui, je suis allée regarder sur Internet. J'ai fait le petit test parce que je me disais, je vais mourir. Non, pas longtemps, c'est sûr. Et puis, les hôpitaux et les médecins étant hyper chargés, j'ai fait ça par mail avec mon médecin.
Qui vous a dit, c'est probablement ça.
Voilà, et qui m'a dit, pas de problème, tu fais attention à ton souffle et puis ça va aller. Et puis, ça a mis un peu de temps quand même à aller. Mais tout va bien maintenant.
Tout va bien maintenant. Oui. J'ai lu dans une interview que vous vous en vouliez un peu de ne pas avoir mesuré la dangerosité du virus dans les premiers temps. Enfin, vous dites, j'ai pris le métro 4 fois par jour la semaine précédant le confinement, ne sentant pas le danger venir. 4 fois le métro par jour, en effet, moi je suis un peu choqué par votre désinvolture, Olivia, je vous le dis, parce que nous, dans l'équipée sauvage, on avait tout à fait pris conscience du danger. Le vendredi avant le confinement, on était en studio et en public avec Mel Rabédia. On a vraiment été irréprochables, on était très sérieux là, on n'a pas contribué à la diffusion du virus du tout.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi, mais pas la chanteuse, la romancière. Il faut poser le personnage. Attention, là vous êtes entrés dans une autre catégorie. Coup de tonnerre dans le monde de l'édition avec ce premier roman qui est un peu tout l'inverse du roman de chanteur. Vous savez, quand le chanteur décide de publier un roman, c'est souvent... Là, c'est l'inverse. On est face à un grand roman. C'est le premier, mais c'est déjà un superbe roman. La commode au tiroir de couleurs, édité chez Lattès, sort aujourd'hui. On va revenir en détail sur l'histoire très émouvante abordée dans ce roman. Mais avant ça, je voulais vous dire, on est fiers de vous avoir parce que la critique est complètement unanime sur ce roman. Qu'est-ce que ça vous fait ? J'imagine quand on publie un roman, on est déjà assez fiers, mais quand en plus la critique est à ce point dithyrambique...
On est plus fébrile que fiers quand même. Quand on est chanteur, on s'attend un peu au pire.
Oui.
J'avoue, parce que justement, il y a un a priori. On a tous des a priori, c'est pas... Voilà. Et puis, belle surprise, mais enfin, voilà. Bah, vous savez, comme nous sommes sensibles, les artistes. Alors, même quand il y a plein de trucs bien, on est là, mon Dieu.
Ah, vous
quand,
voyez que la
quand
petite
quand le truc pourri va arriver, qui va me faire pleurer une journée entière. Donc, pour l'instant, je suis ravie, effectivement.
Oui. J'avais pris une question que j'ai été obligée de barrer parce qu'en fait, j'ai réalisé en lisant les articles qu'elle était con. J'allais vous dire, quand on est chanteur, est-ce que c'est difficile
la question,
de
même,
c'est difficile
pas.
C'est difficile de publier un livre, un roman de comme ça qui complètement inspiré effectivement de votre vie, de votre famille, mais c'est un pur roman. Est-ce que c'est difficile à publier? Est-ce que les auditeurs n'ont pas tendance à vous dire « raconte-nous plutôt les coulisses de la Star Academy ». En fait, c'est une question con parce que j'ai lu que plus de 10 éditeurs s'étaient battus pour publier ce livre.
Oui, et puis ce qui est rigolo, c'est que le livre a été envoyé sans mon accord.
C'est-à-dire ?
Par mon amie et, qui est devenue mon agente, Olivia de Dieu le veut. En fait, en gros, elle est tombée sur ma nouvelle, une nouvelle qui s'appelait La commode au tiroir de couleurs que j'avais faite avec elle à l'époque où elle travaillait chez Flammarion. Et je l'avais lâchée en plein vol pour partir en tournée en disant on reprendra ça un jour. Et quand elle l'a retrouvée, elle m'a dit mais là, il y a ton roman, je sais que tu as du temps, c'est le moment, vas-y. On est arrivé à deux chapitres de la fin et elle me dit là, on envoie. Je lui dis je ne me sens pas du tout prête, je ne sais pas si j'ai envie de le.
Mais pourquoi ? Parce que quand
l'offrir, finalement.
Ah, c'est vraiment étonnant, parce que quand on lit ce roman, c'est tellement maîtrisé, on se dit que vous devez être fier,
mais
simplement,
mais parce
de
que c'est
ce roman. Comment
c'est ça.
Hésiter
Parce qu'on se dit que le costume est trop grand pour nous. C'est vrai que moi, il y a des romans que j'ai tellement aimés, qui m'ont tellement bouleversée, que bah voilà, quelle légitimité je pouvais avoir. Et donc, la coquine...
Elle a envoyé
aux 10 éditeurs dont on rêvait un petit peu toutes les deux. Et elle s'est contentée de me mettre en copie des réponses.
Il fallait être poussé.
Oui.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de détox pour vos neurones et de renforcement musculaire pour vos zygomatiques. Si tant est que les zygomatiques sont un muscle, on vérifiera. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître une personnalité. Et alors là, je l'admets volontiers. C'est souvent là que le bas blesse et que ma technique de l'interview atteint ses limites, car cette spontanéité que vous aimez peut-être chez moi se retourne souvent contre moi lorsque j'interview une personnalité. Car le principe d'une interview, c'est que l'animateur amène l'invité à se dévoiler, pas qu'il se dévoile lui-même, ce qui n'a aucun intérêt, comme on a encore pu le constater hier avec la romancière Tatiana Doronet. Tatiana Doronet, est-ce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un peu hypochondriaque comme moi, vous ne fumez pas, vous m'avez l'air assez...
Vous n'avez pas parlé d'alcool, hein, tout d'un coup, hein ?
Oh, j'ai d'autres vices, mais ça ne se voit pas.
Ah, comme moi. Voilà, parlons un peu de moi, de vous, il faut que je me mette un post-it là-dessus. On vous reçoit aujourd'hui, déjà parce qu'on vous aime beaucoup, mais aussi parce que vous publiez chez Lattès un premier roman extrêmement réussi. Ça s'appelle La commode tiroir de couleurs, c'est une véritable fresque familiale sur l'exil, très émouvante. Je raconte en quelques mots l'histoire. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, sa grand-mère, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes libres entre l'Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. La question qu'on se pose fatalement, c'est quelle est la part autobiographique dans ce roman ?
Elle est assez mince, la part autobiographique, finalement. Alors, il y a des odeurs, bien sûr, des lieux. Là où se situe l'immeuble où arrivent les sœurs, ça, c'est un endroit où, effectivement, j'ai une grand-tante qui s'appelait Madrine, qui avait un immeuble, mais il n'y avait pas des... Enfin, voilà, c'est dans le même quartier, c'est tout ce que j'en ai gardé. Effectivement, ma grand-mère fait un flan aux œufs incroyable avec des petits trous que je n'arrive pas à refaire. Mais après, c'est justement, si j'ai ressenti la nécessité d'écrire sur ce sujet, c'est parce que j'ai passé toute ma vie à me buter au silence familial. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où j'avais envie de m'enraciner et où je me suis dit, les femmes reines de la transmission que j'ai pas vues dans ma famille, même si j'ai eu des femmes extraordinaires...
Je vais les inventer.
Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que vous espériez susciter des questions et des réponses au sein de votre famille en écrivant ce livre ?
Non, parce que ça, pour le coup, il y a tellement longtemps que j'en pose des questions, depuis à peu près mes 8 ans et j'en ai 40. Et donc ça, c'est un deuil que j'ai fait depuis longtemps. Mais ma mère qui a lu, après avoir lu, me dit « tu vois, je regrette de ne pas avoir posé de questions ».
Des questions à sa propre mère,
voilà. Et à son
sur
père,
les origines,
se sont, ses
voilà,
deux
sur ses origines espagnoles, etc. Parce qu'on n'a pas expliqué tout le contexte. Mais
oui,
c'est
voilà,
ça, en fait,
trois de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre de Franco. Je ne sais absolument rien, à part que ça s'est passé entre leurs 7 et 10 ans. Donc il y a quand même, voilà. Et puis le reste, je l'ai trouvé dans des témoignages de résistants, dans des documentaires et puis dans des romans aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé merveilleusement de ce sujet, de Serge Peille à Lydie Salver, en passant par Ovalde ou Carole Martinez, y a, voilà.
Vous évoquez aussi dans ce livre l'accueil très dur réservé aux Espagnols exilés. Mmh. Ça paraît très moderne quand on pense aujourd'hui à toute l'immigration du Maghreb, par exemple. On trouve des ponts très facilement entre cette immigration-là et la vague d'après.
Et puis les vagues de nos jours aussi.
Exactement. Ouais. Ben,
je crois que ça a ancré encore une fois la nécessité de dire. Je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin de m'attarder sur ce chapitre-là, si je me rappelle très bien, et cette image ne m'a pas quittée depuis, de cet enfant échoué sur la plage, vous vous rappelez ?
Terrible.
Et ce sont sur des plages que sont arrivés les Espagnols et que énormément sont morts de froid ou de faim. Donc le parallèle résonnait chez moi avec une violence, voilà, qui m'a laissé penser que quelque part, si j'écrivais tout le temps sur ce sujet, que ce soit dans mes disques ou avec la tragédie musicale Bolbert pour le Palais de Chaillot avec Jean-Claude Galota, c'est quand même qu'il y avait un petit truc. Que je ressentais profondément comme nécessaire de dire aujourd'hui, où ça devient un miroir de notre époque hyper violent, cette histoire-là.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et à présent Anne Le Gall, dont on va découvrir le sujet. Lundi, en présence de la romancière Tatiana de René, eh bien, elle a choisi de nous parler des ODD, les objectifs de développement durable qui font l'objet d'une campagne publicitaire.
Tatiana de René est avec nous pour évoquer son nouveau roman « Les fleurs de l'ombre » chez Robert Laffont et Loïse d'Ormesson, roman qui nous plonge dans un futur pas si lointain mais bougrement flippant, nous allons y venir. C'est tout l'inverse que nous propose aujourd'hui Anne Le Gall, la Yoko Ono d'ici les Moulineaux. La toute dernière hippie recensée des Hauts-de-Seine, également expert environnement d'Europe 1, Anne, qui bien souvent c'est son seul point faible dans notre compétition, pêche par une excessive gentillesse. Elle est incapable de dire à quelqu'un qu'il est nul, même quand il l'est objectivement.
C'est hyper compliqué, écoutez. C'est un animal sous-marin.
Un animal
tout
sous-marin.
Tout mignon en plus.
Une étoile de... un hippocampe. Un étoile des mers.
Pas loin, c'est le poisson clown.
Alors non, une étoile de mer, ce n'est pas loin d'un poisson clown, c'est très 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 loin. Vous êtes trop tendre, ça vous perdra. En attendant, vous avez, je crois, une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Des pubs dans le métro, mais pas pour des bagnoles, plutôt pour le développement durable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anne ?
Mais voilà, si vous avez l'occasion de prendre le métro à Paris, Marseille, Rennes ou Toulouse en ce moment, ou si vous fréquentez l'une des 837 gares en France, vous verrez peut-être un petit bonhomme stylisé vous rappeler dans une animation qu'il ne nous reste que 10 ans pour atteindre les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les ODD ? Eh bien, ce sont 17 objectifs que la France et 192 pays de l'ONU ont signés il y a 5 ans et qu'ils se sont engagés à tenir d'ici 2030 pour assurer un avenir durable aux générations futures et à la planète. Donc, on trouve par exemple dans ces 17 objectifs des choses aussi variées que « ne gaspillez pas l'eau ou la nourriture »,« prenez votre vélo ou les transports »,« limitez les emballages plastiques »,« faites vacciner votre famille »,« défendez le droit des femmes »,« aidez à l'éducation des enfants ». Donc, en gros, ces ODD, c'est une sorte de to-do list, de marche à suivre pour que la planète n'aille pas dans le mur d'un point de vue social et environnemental. Mais le problème, c'est qu'un Français sur 10 seulement sait que ce plan existe. D'où cette campagne lancée par la Fondation Elix et dont Yacine Haït-Kalsi est l'un des concepteurs.
J'ose espérer que les gens qui prennent les transports en commun, le train qui se retrouve dans les gares, à travers ces messages, se disent qu'une autre réalité est possible, qu'un autre avenir est possible, que les catastrophes qu'on nous annonce à longueur de temps et que chacun est maître d'une partie de sa destinée. Et c'est vraiment ce que ce plan des ODD propose à l'ensemble des citoyens de la planète, fussent-ils des chefs d'entreprise, des citoyens, des salariés, des ONG ou les États eux-mêmes.
Mais comment cette pub pour le développement durable se retrouve-t-elle dans le métro et dans les gares, Anne ? Ça coûte cher la pub ?
Mais oui, alors c'est en partie lié à la crise du coronavirus, parce que dans un contexte économique difficile et dans l'attente du retour des annonceurs classiques, ouais. Eh bien la régie Média Transport a décidé de mettre certains de ces espaces à disposition pour plusieurs ONG. Ah. Et dans cette période particulière, alors que toute la planète est concernée par le virus, a été mise à mal économiquement, eh bien le pari, c'est que cette campagne de pub sur les ODD frappe d'autant plus les esprits. Pour l'ONU, bah oui, il est possible que la planète tourne mieux avec moins. Pour ça, c'est pas compliqué. Il y a déjà un plan avec 17 objectifs. Encore faut-il le faire connaître.
Ah oui. Oui, c'est tout l'enjeu, effectivement. Ouais. Tatiana Dornet, est-ce que vous pensez que cette période tellement étrange qu'on a vécue va nous inciter ? Est-ce qu'on va en sortir meilleur ou est-ce qu'on va sortir encore un petit peu pire, comme disait Michel Houellebecq ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles. Hein. Il y a ceux qui disent que ça va nous transformer et d'autres qui sont encore plus inquiets que jamais.
Alors vous savez, en regardant les pelouses des Invalides récemment et celles du Champ de Mars... Moi, j'ai jamais vu une pagaille pareille. Mmh. C'est rave party au Champ de Mars en ce moment, tous les soirs. Je sais parce que j'habite pas loin. On a l'impression que les gens ont fait exprès de jeter leur masque leurs bouteilles, de tout laisser. C'est comme si c'était, on va polluer encore plus qu'avant. Donc je me demande si ces trois mois ont servi à quelque chose finalement. Je vous dis pas que je suis pas non plus totalement pessimiste, mais je suis inquiète.
J'aimerais ajouter une touche feel good pour contrecarrer ça, mais comme je suis exactement d'accord avec vous, en fait, je
ne
peux
ça,
pas.
C'est
donc
compliqué.
C'est tout pourri. L'avenir est bien sombre. Merci Anne Le Gall. Belle chronique une fois de plus. Mon conseil, Anne, ne vous laissez pas déstabiliser par les blagues obscènes que ne manquera pas de vous faire Nicolas Caro.
Fascinante langouste.
Voilà, c'est ça. Ne rentrez pas dans son jeu.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
En 1983, le groupe Police est au sommet de sa carrière. Il se lance cette année-là dans une tournée pharaonique. Et c'est lors de l'un de ses concerts que Sting réalise qu'il ne pourra jamais faire mieux que cette série de 105 dates de Nagui chez Fermé. Il fait alors part à ses deux acolytes de sa volonté de quitter le groupe. Et bien, c'est cet artiste que Fred Goati a choisi d'évoquer ce 29 mai dernier sur Europe 1 au micro de Mathieu Noël.
On le présente souvent comme le ponte du jazz en France. Un mélomane pointu, allergique à la médiocrité. Et c'est vrai que Fred Goati dirige Jazz Magazine. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ses premières émotions musicales, il les a vécues en regardant le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. Et le saxophoniste qu'il a le plus marqué, eh ben c'est pas Coltrane, c'est...
Un saxophoniste aveugle qui pouvait souffler dans plusieurs instruments à la fois et même chanter tout en jouant.
Aujourd'hui, Fred, il n'est pas aveugle, il ne peut pas souffler dans plusieurs instruments en même temps, mais il est assez épatant quand même. Vous nous parlez de Sting. Sting, il y a 35 ans.
Oui, nous sommes au château de Courson, mesdames, messieurs, dans l'Essonne, début mai 1985. Et Sting, le chanteur de Police, l'ex-chanteur de Police, répète avec ses nouveaux musiciens.
Chut. Let's do it, full ensemble. One, two, three, four. If I build this fortress around your heart.
Eh oui, Mathieu, vous n'aviez que 3 ans en 1985, mais Sting en avait déjà 34. Et à cette époque, quand le chanteur d'un groupe célèbre voulait se lancer dans une carrière solo, bah c'était pas gagné d'avance, hein, parce que par exemple la même année, alors que les Rolling Stones battaient un peu de l'aile, Mick Jagger avait aussi essayé de se la jouer perso, mais croyez-moi, il est vite retourné au bercail. Ouais, mais Sting, c'est différent. L'alchimie avec les deux autres membres de Police était unique, mais c'était quand même lui qui savait comment écrire une chanson pop capable de toucher des millions de personnes. Reste que pour s'inventer un futur, bah il avait pris le risque, aux grandes dames de ses managers, de travailler avec des musiciens de jazz.
Oui, on l'entendait hein, sur l'extrait. Moi, ça m'a même surpris. Rappelez-nous qui étaient ces jazzmen, Fred.
Ah bah, il y avait notamment le grand saxophoniste Branford Marsalis, le bassiste de Miles Davis, Darryl Jones, et le merveilleux et regretté pianiste Kenny Kirkland. Bref, un véritable all-star, mais une véritable folie aussi, car pour une pop star planétaire comme Sting, se lancer dans une carrière solo entourée de musiciens de jazz, j'insiste, c'était un sacré coup de poker. Mais je me souviens que lors d'une conférence de presse au Centre Pompidou, Sting avait rappelé que Police était en réalité son premier groupe pop et qu'avant, il n'avait joué que dans des groupes de jazz. Et du Centre Pompidou au Théâtre Mogador, eh bien, il n'y avait qu'un pas. Car c'est à Paris que tout avait donc recommencé pour Sting il y a 35 ans, fin mai 1985.
Woke up in my clothes again this morning. I don't know exactly where I am. I should heed my doctor's warning. He says the best with me he can.
Oh là 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 là.
Ça joue bien. Hein.
C'est, ouais, ça swing à mort. Et alors, Fred, vous venez de me souffler en tête que vous étiez à un de ses concerts, petit vénard.
Oui, même à deux. Et d'ailleurs, j'en garde un souvenir ému, puisque Sting et ses fantastiques musiciens jouaient dans une salle à taille humaine, le Théâtre Mogador, donc, ce qui nous changeait un peu des stades où Police se produisait. Mmh. Et je me souviens aussi que lors du rappel, mon voisin avait hurlé « I love you !» et que Sting avait répondu « Je ne sais pas quoi dire à ça.
I don't know what to say to that. »
Mais il a raison. Ah, cette chanson, je crois qu'elle est un peu connue.
Ouais. Vous auriez pas enregistré le concert par hasard
Vous auriez pas, de manière clandestine.
Frédéric Goati.
C'est pas mon genre. Qu'est-ce que vous soupçonnez
voilà,
des
bien
choses
sûr.
Comme ça Écoutez ce message dans une bouteille que Sting nous envoie. Tout seul à la guitare. Bon alors, depuis Sting s'est non seulement imposé, c'est le moins qu'on puisse dire, en tant qu'artiste solo, mais il a continué d'écrire des chansons dont certaines, eh oui, sont même devenues des standards de jazz, comme Fragile par exemple. Et puisque sa discographie regorge de petits trésors cachés, je vous offre aujourd'hui cette sublime chanson des frères Gershwin, jadis enregistrée par Ella Fitzgerald et chantée par Sting en duo intimiste avec son pianiste Kenny Kirkland. Alors Sting, chanteur de jazz? Non, mais amoureux du jazz, ça oui.
Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead, oh how I need someone to watch over me.
Alors Fred, ouais, c'est la question que je pose à chaque fin de vos chroniques.
Ouais.
Est-ce que le commun des mortels peut se procurer certains enregistrements qu'on a entendus ou c'est tout dans votre discothèque et uniquement dans votre discothèque?
C'est prévu. Vous pouvez vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées et vous trouvez cette chanson qui s'appelle « Someone to Watch Over Me » par Sting.
Merci beaucoup, Fred Goetti.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Et ce jeudi, Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1 accueillaient Amanda Sterz à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Lettre d'amour sans le dire ». Elle y raconte l'histoire d'une femme prisonnière d'elle-même qui reprend peu à peu le contrôle de sa vie. C'était l'occasion aussi de nous livrer son regard sur l'évolution de l'image des femmes à travers les générations.
Bienvenue sur Europe 1, la radio où vous écoutez le monde changer et les journalistes se castagner. Chaque après-midi, ils s'affrontent dans l'arène surchauffée du studio Coluche au service de votre culture G. Celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus étonnant ou le plus instructif repartira d'ici coiffé de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Je l'ai retrouvée. Et donc, autant vous dire qu'entre cette couronne en plastique et le masque obligatoire, le gagnant va vraiment fière allure en sortant d'Europe 1 tout à l'heure. Dans toute compétition qui se respecte, il y a évidemment une mascotte, Maître Capello jadis dans Des chiffres et des lettres, la boule dans Fort Boyard et Varrock. Dans l'équipée sauvage.
Je ne sais pas du tout comment je dois le prendre.
C'est assez flatteur, c'est un petit lancement comme ça que j'ai pensé à vous.
Ouais.
Je me dis, voilà. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé sur les écrans
bonjour
ce soir.
Mathieu, bonjour à tous.
Mais je me dois désormais de le préciser quand même à l'invité. Quand vous vous adressez à Eva, n'hésitez pas à parler plus fort, car hélas, elle nouit plus aussi bien qu'avant. Le poids des ans, certainement, tous des tracts. En plus, avec le retour de la pluie, elle a vraiment pas le moral. C'est vrai quand même, c'est quand même bête qu'il fasse pas beau au mois de juin.
Il faut mettre un anneau dans son vagin?
Non, je dis, c'est bête qu'il ne fasse pas beau au mois de juin. Bref, excusez-la. Eva, ressaisissez-vous et accueillons notre invitée du jour, la romancière, scénariste et réalisatrice Amanda Sterz. Bonjour Amanda.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi pour nous parler de votre dernier roman, Lettre d'amour sans le dire, qui est clairement un des plus attendus de cette rentrée littéraire post-confinement. J'imagine que ça doit vous réjouir et vous rassurer. Est-ce que vous êtes du style à lire tous les articles, toutes les critiques quand un livre sort, ou bien vous essayez de vous tenir à distance de tout ça?
Non, je lis tout, mais en fait, je suis très touchée surtout par les gens maintenant qui ont des blogs, qui étaient quelque chose de mineur avant, et ça prend de plus en plus de place parce qu'il y a quelque chose de moins politisé, on va dire, que les articles de journaux qui ont déjà des a priori, des préférences. Et je pense qu'il y a quelque chose de très proche d'un vrai lectorat. Et donc, j'ai tendance maintenant à lire beaucoup les
blogs. Vous passez du temps, même sur des blogs, pour voir un peu ce qu'on
dit? Sur les réseaux sociaux, quand je lis, oui, bien sûr, c'est touchant.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Amanda Sterz qui nous accompagne cet après-midi pour fêter la sortie de son nouveau roman « Lettre d'amour sans le dire » publié chez Grasset. On va bien sûr en parler en long et en large, si j'ose dire, dans cette émission. Mais avant cela, est-ce qu'un artiste est mieux préparé, mieux équipé à vivre un confinement comme celui qu'on a vécu, parce qu'il travaille d'habitude aussi, c'est un travail assez solitaire, l'écriture, ou pas du tout, c'était aussi dur que pour n'importe qui cette période?
Je sortais de mon confinement volontaire, parce que je venais de sortir un livre, donc je n'avais pas forcément envie de retourner.
C'était pas le moment, quoi.
Disons qu'on est tout le temps dans cette introspection, qu'on est tout le temps enfermé en soi, mais que ce confinement a du sens que parce que le monde autour existe, vit, tourne, et qu'on a l'impression d'en capter quelque chose. Et j'ai pas fait partie de ces artistes qui ont écrit directement sur ça. Je pense que j'ai fait partie des gens qui l'ont vécu. Et ça donnera sûrement quelque chose. Mais
Ah oui, vous y pensez déjà?
Non, pas directement, mais je veux dire, le monde a changé. Il y a eu le pire et le meilleur de l'humanité qui est ressorti de ce confinement. À la fois, je pense, un sentiment de lien avec le reste de l'humanité. Du fait que chaque mouvement a influencé son voisin. Et en même temps, des choses qui m'ont vraiment choquée, les dénonciations d'infirmières.
Oui, les lettres dans les cages d'escalier, là. Ouais. Mon Dieu.
Donc, je ne pense pas que les gens aient changé, l'humanité ait changé, mais il y a forcément des choses, des impacts sur nos vies, sur nos désirs, sur nos envies, sur ce rapport à la vie courte et donc à l'envie d'en profiter.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rentrer à la maison, le sourire aux lèvres et les neurones revitalisés grâce à la féroce compétition que se livrent nos journalistes sous l'œil d'un invité arbitre qui a parfois d'ailleurs du mal à comprendre comment on peut se noter entre collègues.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais on n'est pas amis.
Et oui, c'est peut-être ça au fond, le secret. Oui. Aujourd'hui, on est ravis de passer l'après-midi avec une de nos auteurs les plus célèbres, Amanda Sterz. Vous publiez Lettres d'amour sans le dire chez Grasset. Comment vous définiriez ce roman ? Est-ce que c'est une réflexion sur l'amour, sur le temps qui passe, la sensualité, le désir, la difficulté parfois à verbaliser ce désir qu'on rencontre tous ?
Je pense que c'est un livre qui parle de la fin de la peur d'aimer. C'est une femme qui s'est mise entre parenthèses pendant des années, qui a vécu beaucoup de traumas. Ça nous est toutes et à tous arrivé. Et qui décide de plus prendre le risque de tomber amoureuse. Et un jour, ça lui tombe dessus. Et c'est un livre sur le retour de l'émerveillement amoureux dans une vie.
Alors Alice, 48 ans, prof de lettres à la retraite, elle est native de Cambrai. Une vie qui semble assez terne jusqu'au jour où, ayant fait halte dans un salon de thé, Alice est révélée à elle-même par un masseur japonais d'une grande délicatesse qui la réconcilie avec son corps et lui fait entrevoir soudain la possibilité du bonheur. C'est une sorte de révélation, d'épiphanie, cette rencontre.
Oui, ça passe par le corps, mais il y a des émotions où d'un coup, il lui touche les épaules et elle se souvient qu'elle a un corps, elle qui a voulu renoncer, qui a voulu le mettre de côté. Et c'est par l'émotion physique que l'émotion amoureuse va renaître.
Il y a une phrase magnifique, elle dit, parce qu'elle se met à pleurer évidemment après ce premier massage, elle dit « Ce n'était ni du chagrin, ni même une émotion, je libérais simplement de la vie, je me remettais en marche. » Comment vous est venue l'idée de ce roman ?
J'étais à New York il y a peut-être 7 ans maintenant, ouais, 7 ans. J'étais en train d'enquêter sur la Turing de Newton, dont j'ai fait un
école
essai
maternelle,
après.
Hein, ouais. Mmh.
Et donc, quelque chose de très violent. Ça faisait deux semaines que je voyais des victimes, que j'ai fait passer mon permis de port d'armes. Enfin, j'étais vraiment dans un truc qui neigeait, vraiment chouette. j'étais à New York juste avant de reprendre l'avion et je suis allée faire quelque chose pour moi, pour sortir de cette violence. Et on me faisait les ongles dans une petite boutique avec des dames chinoises très gentilles. Et il y a quelqu'un qui s'est mis à me masser les épaules. Et moi qui étais dans un état d'écrivain où je n'étais qu'un cerveau, je ne pensais plus du tout que j'avais un corps, ça m'a réveillée et j'étais à un moment de ma vie où je n'avais pas d'histoire d'amour, où j'avais rejeté ça pour ne pas souffrir, dans le même état que ce personnage. Et à ce moment-là, par la fenêtre, j'ai vu passer une dame d'un certain âge et je me suis dit, est-ce qu'il y a un jour où on ne nous touche plus, où on n'a plus de contact physique, où on rêverait d'un câlin ou quelque chose peut transformer nos vies. Et je me suis dit d'abord que moi, il fallait que je renaisse à la vie, mais aussi qu'il y avait une histoire dedans, qu'il y avait un roman. Et à force de parler à des femmes, et surtout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large qu'une histoire d'âge. Et j'ai rencontré des femmes sublimes, jeunes, qui avaient décidé de ne plus prendre le risque d'aimer. Et je pensais que c'était une sorte de bouteilles à la mer pour elle, de signes pour leur dire ça peut vous retomber dessus. Et sûrement pour moi aussi, c'était pour me convaincre qu'on avait le droit d'y croire encore.
Mais quelle est votre conclusion personnelle là-dessus ? Parce que c'est peut-être encore plus risqué de ne pas prendre le risque d'aimer.
Bien sûr, mais entre le dire et tomber plusieurs fois, c'est comme croire en Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, de la foi. C'est-à-dire que on ne croit plus au Père Noël une fois qu'on nous explique qu'il n'existe pas. Pourquoi on continuera à croire en l'amour ? Et pourtant, il y a cet émerveillement qui revient et c'est la magie de l'humanité.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme l'héroïne, de tomber amoureux de quelqu'un, mais de ne pas le verbaliser, de ne jamais lui dire, de ne jamais avoir l'occasion de lui dire ?
Et de fantasmer un peu aussi la rencontre.
En fait, le livre s'appelle comme ça parce qu'au Japon, on ne dit pas « je t'aime », on dit « il y a de l'amour dans l'air ». Et comme
ils
si ça nous
forts,
tombait dessus et que c'était pas nous qui choisissions. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du destin. Et donc je pense qu'il y a plein de façons de dire aux gens qu'on les aime sans le prononcer. Et souvent, souvent, dans les silences, il y a plus d'amour que dans les mots.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ce sont les meilleurs moments, comme tous les week-ends, de 16h à 18h sur Europe 1 avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent Jean-Philippe Ballas. Le 30 janvier dernier, il avait choisi d'évoquer les violons de l'espoir en présence de la romancière Anne de Goscinny.
Pourquoi est-ce toujours Anissa Mbida qui a droit à la musique qui fait... Moi aussi, je suis un sacré beau gosse qui fait chavirer le cœur des invités de sexe féminin. Moi aussi, j'ai droit à être présenté sur la musique qui fait... Eh bien, Jean-Philippe Ballas, vous avez raison, ce n'est pas pour rien qu'une gazette locale vous a récemment élu homme le plus sexy de Malakoff 2019. Voici donc, mesdames et mesdames, Jean-Philippe Ballas. Le Casanova Malakoffiote, car oui, j'ai vérifié, on parle bien... De Malakoffiote. Jean-Philippe, comme à votre habitude, c'est vrai.
Malakoffio, Malakoffiote.
Exactement, oui, vous êtes Malakoffio plus que Malakoffiote.
Pardon.
Quoique, c'est une vraie Mathieu. Belle histoire que vous nous racontez aujourd'hui, comme à votre habitude, Jean-Philippe.
Alors d'abord, on va se mettre dans l'ambiance, on va écouter ce violon parce qu'il a une histoire à vous raconter. Alors ce violon, là, en ce moment, il sort d'un atelier de Tel Aviv. Pas n'importe lequel, c'est l'atelier d'Amnon Weinstein, il a plus de 80 ans, c'est un luthier, et il ramène à la vie des violons qui ont appartenu à des juifs pendant la guerre. Je vous explique, la toute première fois, c'est un jeune homme qui est passé à l'atelier, il avait avec lui l'instrument de son père, un instrument en très mauvais état, et c'est un violon qui avait joué à Auschwitz, vous avez de ces violons qui accompagnaient les déportés vers les chambres à gaz. D'ailleurs, il y avait de la poudre noire à l'intérieur de la cendre qui était incrustée dans le violon. Alors après la guerre, plus personne n'a voulu toucher cet instrument. Mais aujourd'hui, donc, le jeune homme est là parce qu'il voudrait que son propre fils apprenne à jouer avec ce violon, et ce en mémoire de toutes les victimes. Et c'est ainsi que, depuis plus de 20 ans maintenant, Amnon Weinstein s'est mis en tête de récupérer plein de pièces, plein d'instruments venus d'un peu partout dans le monde. Des violons qui ont joué dans des camps, donc, mais aussi dans des ghettos. Des violons qui ont été cachés parfois dans la terre pour échapper aux nazis. Et patiemment, depuis plus de 20 ans maintenant, patiemment, il les nettoie, il les répare avec ses outils, avec ses petites lunettes. C'est toujours très émouvant à voir, il y a des reportages sur Internet. Et il confie ensuite ses instruments à des concertistes, à des virtuoses qui jouent régulièrement ainsi sur les scènes du monde entier. Alors ça s'appelle... Les violons de l'espoir. Alors évidemment, les violonistes qui ont eu le privilège d'avoir ces instruments entre les mains, bah, ces violonistes disent tous que c'est une émotion très très intense, un peu comme si les vrais propriétaires étaient là avec eux sur scène. Et je me dis que c'est ça aussi finalement le devoir de transmission, de mémoire. Ça passe aussi aujourd'hui par la musique. Et d'ailleurs, c'est le fils d'Amnon Weinstein maintenant qui est en train de prendre le relais de ce vieux luthier au fur et à mesure pour perpétuer l'histoire de ces instruments.
Bon, alors pas de son à la con à l'issue de cette chronique, parce que c'était quand même très beau. Anne Goscinny, votre père, évoquait très peu, je crois, ses origines juives. Il parlait pas beaucoup de la Shoah. Pourtant, une partie de sa famille a disparu dans les camps nazis. C'est une histoire familiale dont vous aviez conscience enfant, ou ce n'est que plus tard que vous avez eu connaissance de tout ça ?
Oh non, je peux peut-être dire que j'en avais une inconscience enfant, puisque j'ai vécu beaucoup avec la mère de mon père, qui, elle, avait échappé au pogrom en 1905 en Ukraine, et qui avait fui avec sa famille en France, parce qu'en France... heureux comme Dieu en France, le pays où quand même 50% de la population est favorable au capitaine Dreyfus. Donc il ne pouvait rien arriver aux Juifs en France. Et heureusement, le père de mon père a eu un poste d'ingénieur chimiste à Buenos Aires en 1928. Donc mon père, son frère et leurs parents ont eu la vie sauve. Mais non, il n'en parlait pas. Mais alors, je vais vous faire une drôle de réponse, en écho sans doute à la chronique de Jean-Philippe. Mais la mère de mon père, elle l'a chanté cette histoire, en me chantant des comptines en yiddish avant de m'endormir. Heureusement que je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, parce que je ne suis pas sûre que c'était très gai et favorable à un sommeil serein d'un enfant de 5 ans. Et puis, de temps en temps, elle me racontait des belles histoires, du style... Mais tu sais, mon trésor, elle avait cet accent yiddish à la Popek. Enfin, Popek, c'est un amateur à côté de ma grand-mère. Elle disait, tu sais, eh bien, les hommes du tsar entraient à cheval dans nos maisons et comme j'étais la fille du rabbin, ils commençaient par brûler ma maison. Bonne nuit, mon trésor. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je parle plutôt d'inconscience, parce que j'ai entendu tout ça, j'ai emmagasiné tout ça. Et ça fait aujourd'hui de moi la personne que je suis, forte et faible de cette histoire-là. Donc, sans vouloir préjuger de mon vote final, il est évident que la chronique de Jean-Philippe...
Ah, là, des points. Aïe. Voilà. Plus de liens qu'avec le
Néanmoins, Boutan. Eh oui. Néanmoins, le Boutan et le Kate et William locaux, je dois dire, ça me titille aussi.
Ah, ben. Voilà. Jean-Philippe.
Alors, pour enfoncer le clou, je précise que l'histoire de votre père, vous la racontez dans un très beau livre que vous avez écrit avec Catel.
Que Catel a écrit. Voilà. Moi, j'ai servi de caution et de documentation.
Oui, elle raconte qu'elle a beaucoup parlé, de votre père pour qu'elle signe ce roman des Goscinny qui est sorti en août dernier. Eh ben, tiens, puisqu'on parle de ça, dans ce livre, on vous voit rendre visite au cardiologue de votre père avec un revolver. Vous nous racontez cette scène, c'est une scène fantasmée?
Non, pas du tout. J'ai pas assez d'imagination pour imaginer une telle scène. Effectivement, mon père est mort d'une erreur médicale chez son cardiologue pendant le test de l'effort, puisqu'il faisait ce test de l'effort où donc on pédale sur un vélo avec des électrodes partout branchées à un électrocardiogramme. Et mon père décrit l'infarctus très clairement. Il dit « j'ai mal au bras gauche, j'ai mal à la poitrine ». Et le cardiologue, devant ma mère qui était dans la salle d'examen, lui dit « écoutez, monsieur Goscinny, j'ai pas de rendez-vous avant 15 jours, pédalez encore quelques secondes et l'examen est terminé ». Et il est mort à ce moment-là. Donc, inutile de vous dire, ma mère avait 35 ans, moi j'en avais 9. C'est le chaos au-delà. Et évidemment, ma mère m'a raconté cette histoire souvent, trop souvent. Et à 18 ans pile, le jour de mes 18 ans, j'ai pris rendez-vous sous un autre nom avec le cardiologue. Je suis arrivée chez lui avec un grand manteau. Alors en plus, je suis née fin mai, donc un manteau, ça faisait bizarre. Et la main droite dans la poche, et j'ai dit « voilà qui je suis, je vais vous buter ». Parce qu'en fait, vous avez fracassé mon enfance, évidemment. La vie de ma mère, on ne va pas survivre encore très longtemps. Effectivement, elle n'a pas survécu très longtemps. Je vais vous buter.
Et comment ça s'est résolu ?
Je pense qu'il y a cru une petite dizaine de minutes quand même. Et, ah oui. Et puis il m'a dit, mais je vous attendais. Et d'ailleurs, j'ai jamais reçu d'honoraire de votre famille, m'a-t-il dit.
Non.
Si, ça, malheureusement, j'ai pas assez d'imagination pour inventer une histoire comme ça.
Mais surtout, il devait être heureux que vous ne l'ayez pas poursuivi.
Oui, je crois qu'il y a eu des. Ma mère a essayé de le poursuivre, mais bon, elle était elle-même malade quand mon père est mort, elle avait un cancer. Donc tout ça a été vraiment une histoire assez glauque. Mmh. Et je peux me vanter de lui avoir fait un petit peu peur. Il a été quand même suspendu pendant 5 ans de son activité de médecin. Et puis j'ai raconté ça dans un livre, et puis je l'ai raconté à Catel, qui l'a joliment mis en scène, cette histoire.
Le roman des Goscinny qui est disponible.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Apprendre et se détendre, telle est la mission de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1. Mathieu Noël que l'on retrouve aux côtés d'Eva Rock et du gourmet de la bande, Olivier Pouls. C'est le moment de prendre des notes pour la recette apéro. C'était ce mercredi sur Europe 1, en présence d'Olivier Ruiz.
Jean-Pierre Marielle n'avait que deux passions.
J'ai deux passions dans la vie, la sexualité de groupe... les maisons normandes.
Olivier Pouls, lui, en a une troisième, la gastronomie. Et quand toutes ces passions se mélangent dans sa tête, ça donne des moments de radio gênants à une heure de grande écoute.
Je vous propose un programme d'été de barbecue pour ce week-end. Bah, je me déshabille alors.
Olivier peut faire un barbecue habillé, c'est une possibilité.
Mais le barbecue nu.
Oui, oui, bon, d'accord,
c'est bon.
Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomie, entre autres. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme recette facile et goûteuse?
Eh bien, on continue la série apéro, puisque c'est le moment des retrouvailles.
Oui. Mais oui.
Olivia, est-ce que vous avez organisé déjà quelques apéros avec vos copains là depuis qu'on se déconfine?
Non, pas encore, mais ça va venir, oui, bien sûr.
Ben surtout avec la bonne idée que je vais vous donner, car je vais vous livrer l'une de mes recettes secrètes pour un petit tapas d'apéro qui claque, comme on dit. Alors écoutez bien l'intitulé, blinis au sarrasin, crème légère citronnée et œufs de saumon.
Pas mal,
extrêmement
super.
Facile. Alors la recette du blinis au sarrasin, c'est enfantin, un pot de yaourt. Vous le videz. Vous remplissez ce pot de yaourt, moitié farine normale, moitié farine de sarrasin. Vous cassez un œuf dans le tout, vous mélangez un demi-sachet de levure, vous laissez poser une heure, et vous avez une pâte à blinis extraordinaire. Vous n'avez plus qu'à les cuire dans une poêle bien chaude avec un tout petit peu de matière grasse.
Avec ou sans yaourt, pardon?
Ah ben évidemment, le yaourt, vous l'utilisez pour lier. Évidemment, donc d'accord. C'est le yaourt, l'œuf et la farine dans le doseur, en fait, c'est le pot de yaourt.
Même voilà. Les petits tapas, elle n'est pas capable de
mais
suivre.
Mais si, je préfère demander la précision.
Voilà. Après, une petite crème crue, achetée chez le fromager, avec un petit trait de jus de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, que vous mélangez bien, vous posez ça sur le blinis, et des œufs de saumon par-dessus, En ce qui nous concerne, Mathieu lui préfère mettre un bon caviar beluga.
Ah, je sais pas, j'en ai jamais goûté, mais
aussi. Oui, c'est très
le
bon,
jour, je confirme.
Et des œufs de saumon, c'est un produit qu'on a un peu oublié. Il faut plutôt prendre des œufs de saumon bio, c'est bien meilleur en termes de qualité et puis souvent de goût, parce que le saumon, c'est pas toujours terrible. Mais alors, la petite texture de l'œuf de saumon qui est un peu gros, hein, l'œuf de saumon, quand ça claque dans la bouche comme ça, avec le sarrasin et la crème crue qui vient emballer le tout,
super.
C'est fantastique.
Merci Olivier, votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 en podcast et on vous retrouve évidemment dans la table des bons vivants chaque samedi avec Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 18h.
L'équipe est sauvage.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Et place à la seconde partie de l'équipe sauvage, les meilleurs moments avec Mathieu Noël, sa grande complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1, toujours au service de notre savoir, de notre culture générale. Objectif, je le rappelle, décrocher le titre de chroniqueur du jour. D'ici à 18h, on vous parlera de la brizza, hybridation de la pizza et du bretzel. Du tourisme spatial également. Pour qui, pourquoi faire et combien ça coûte, vous saurez tout. Nous ferons une incursion chez les têtes couronnées au Bhoutan, mais aussi chez les chefs d'entreprise qui réclament des plans de relance. Côté entretien, eh bien on va retrouver la romancière Tatiana de René. Et tout de suite, c'est avec la chanteuse lyrique Sabrina Petitbon que nous commençons.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission qui chaque après-midi frictionne vos zygomatiques tout en lustrant vos neurones. Deux heures de découvertes palpitantes, rieuses et même parfois gourmandes.
Ah ouais.
Et oui, saluons d'emblée Eva Rock, ma précieuse complice. Alors, bien
bonjour,
remise
Mathieu.
Eva.
Bonjour Mathieu, bien remise de quoi?
Mais je crois qu'il faut le signaler à nos auditeurs, il faut être transparent.
Non.
Hier soir, j'avais organisé chez moi un petit apéro intimiste avec Eva et Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Autant vous dire qu'ils ne sont pas arrivés avec du quinoa et de la ceinture. Hein.
Alors moi si.
Ah oui.
Mais pas Olivier Pouls.
Alors, je vous explique un truc, non. Le pâté en croûte n'a rien à voir avec le quinoa. Tout à l'heure Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé et sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons notre invitée vedette aujourd'hui. C'est vraiment la rencontre de deux voix. D'un côté, celle de la soprano niçoise Eva Rock.
Arrêtez de m'embêter comme ça.
Et là, son fameux concert dit des 12 Spritz, enregistré hier soir sur mon balcon. Et face à elle, l'autre grande soprano française, Patricia Petitbon.
Il rentrait le soir de la mer, après un long voyage.
Bonjour Patricia Petitbon.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous cet après-midi. On va évoquer et écouter votre sublime dernier album, L'amour, la mort, la mer. Mais dites-nous d'abord, comment vous allez? Comment vous sortez de cette période étrange qu'on vient de vivre? Vous avez chanté à votre balcon, comme Eva, mais en mieux?
Non, moi je n'ai pas vraiment chanté. Non, je n'ai pas chanté parce que peut-être... Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai préféré rester un petit peu en retrait et puis me poser des questions, quoi, surtout.
Et alors attendez Patricia, c'est intéressant d'un point de vue technique, vous dites que vous ne chantez pas, vous n'avez pas chanté de manière, genre vous n'avez pas chanté devant votre caméra pour les gens de manière un peu professionnelle, mais est-ce que vous avez chanté pour vous, est-ce que à votre niveau, on n'est pas obligé de chanter pour entretenir la machine?
Ben écoutez, vous savez dans la vie il faut savoir aussi s'arrêter, c'est-à-dire que j'en ai profité évidemment pour déchiffrer ou défricher, comme vous voulez, des grandes partitions, des grands ouvrages. Donc ça, c'était assez comique parce que je l'ai fait par téléphone avec des amis pianistes, ce qui n'était jamais arrivé. Je crois que s'il y avait eu un troisième luron pour entendre ça, il se serait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm de bruit, de son, d'hurlement ?» Parce que c'est un petit peu ça. Donc en fait, ça m'a servi à me poser, à plutôt lire, on va dire, lire de la musique, à prendre du temps, si j'avais envie, sur deux pages, sur une page, c'est plutôt ça. Mais chanter, à proprement dit, je n'en avais pas forcément l'énergie ni la volonté, parce que le chant, c'est quelque chose aussi de magique, il existe grâce aux autres, en fait. On est là pour partager avec les autres, et partager avec le corps aussi, avec la vibration. Donc, c'est pas du tout la même chose que d'être derrière un écran. Et donc, je me suis dit, il faut se taire, il faut rester en silence aussi, parce que je n'avais pas vraiment le choix. Et puis, j'ai fait d'autres choses que de chanter.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc la célèbre soprano Patricia Petitbon qui nous accompagne cet après-midi pour nous présenter son dernier album « L'amour, la mort, la mer ».
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer
Patricia Petitbon, vous allez nous raconter le concept de cet album qui est très original. Juste avant, une question de culture G, puisque c'est un peu le thème de notre émission. On dit que vous êtes soprano coloratour. Qu'est-ce que ça veut dire soprano coloratour?
C'est un adjectif qu'on peut coller même au ténor, même au basse, basse coloratour, ouais. Ténor coloratour. C'est-à-dire que ce sont des voix qui ont une certaine agilité, ouais. Qui vocalisent, qui surfent pas mal, on va dire, avec des ribambelles de notes, de guirlandes de notes. Voilà, si je peux faire ça très simplement.
Alors, parlez-nous de cet album dont on vient d'écouter un petit extrait, L'amour, la mort, la mer. C'est une forme d'odyssée, on se croirait un peu dans l'odyssée avec Ulysse.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est venu avant le confinement.
Oui.
C'était une réflexion un peu... En fait, c'était une réflexion sur le temps. Et donc, c'est vrai que c'est un disque où la musique prend son temps. Vous voyez, on est dans un autre temps, un temps peut-être de lenteur. Et de réflexion. Et donc, oui, c'est venu de mon intérêt pour l'Antiquité et pour justement les héros de l'Antiquité qui étaient des héros qui n'étaient non pas jugés par rapport à leur statut social, mais à leur choix, à leur façon d'embrasser leur destin, leur vie. Et finalement, c'est la part de héros en chacun de nous. Et donc, je trouve que c'est vrai que c'est une drôle de coïncidence, puisque, parce qu'on le voit, aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de héros qui se sont révélés dans l'épreuve, parce que c'est toujours dans l'épreuve que se révèlent, je dirais, les personnalités, le courage, ou pas, d'ailleurs. Et c'est assez étrange. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup référence à Ulysse, dans la présentation de ce disque, mais ça mélange, c'est un mélange de deuil, de toutes choses, de relations amoureuses, à travers aussi des textes poétiques, et puis des compositeurs contemporains, pas forcément contemporains, une façon, en tout cas un mélange entre la musique savante et aussi populaire, comme John Lennon, j'ai repris la mélodie de... je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. My Love. My tout le monde
love.
Connaît cette mélodie. Oh My Love. Et donc, on a fait un arrangement avec Laurent Levesque. Alors, c'est un disque où il y a aussi un accordéoniste. Il s'appelle David Venitucci.
C'est très éclectique.
Suzanne Manoff, ma pianiste. Un joueur de cornemuse aussi. Ronan Le Barce. Donc voilà, on a mélangé aussi les sonorités. C'est un voyage sonore.
C'est un voyage sonore, c'est un ovni, cet album magnifique. C'est un peu moi, ça a été la bande originale du confinement. C'est vrai qu'en plus, avec ce rapport au temps,
vous êtes gentil.
C'est vraiment très beau. Patricia Petitbon, comme je sens qu'Eva va commencer à nous faire des vocalises pour
non,
vous prouver qu'elle aussi peut monter
non.
très haut, je vous propose qu'on enchaîne assez vite. Non, Eva,
non.
Eva. Non, Eva, vous m'aviez promis. Non, Eva, voilà ce que je craignais. Vite, enchaînons. Voilà. Patricia, restez avec nous.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Et oui, ce sont les meilleurs moments avec Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1, lesquels chaque jour s'affrontent avec des sujets originaux, insolites ou émouvants pour gagner les faveurs du public ou même de l'invité de Mathieu Noël. Et ce mercredi, le grand gagnant, c'était Axel de Tarlet, couronné pour sa chronique sur le grand retour de l'économiste Keynes.
Olivia Ruiz est notre invitée arbitre cet après-midi. C'est elle qui, avec vous, désignera en fin d'émission le chroniqueur du jour, celui de nos journalistes qui aura proposé la chronique la plus intéressante. Et je suis sûr que celle qui suit peut vous plaire, Olivia. Il faut juste qu'Axel de Tarlet ait la force de la porter en entier. En effet, depuis son dauphin d'or du meilleur journaliste économique en 2003, Axel a tendance à se reposer sur ses lauriers et à se satisfaire très vite de son travail. Comme mercredi dernier, par exemple, il a failli s'arrêter dès le teasing, tellement il s'est trouvé bon.
La question est, comment passe-t-on du Capitole à la Roche Tarpéienne?
Ouh là, d'emblée.
Là, je crois que j'ai déjà gagné, plus besoin de faire la chronique.
Alors, Axel,
et vous aviez perdu, je crois.
En plus, il avait perdu. Le teaser était bien, mais on a envie que vous développiez. En quoi les patrons vont-ils se gauchiser à l'issue de la crise du Covid?
D'habitude, les patrons réclament toujours une baisse de la dépense publique parce qu'ils savent très bien que si on augmente la dépense publique, il va y avoir plus d'impôts et les impôts, ils n'aiment pas ça. Donc, là...
J'aime bien quand vous me faites l'économie pour les nuls. C'est très bien.
Et là, ils ont complètement changé de discours. Là, tous, y compris d'ailleurs la semaine dernière, on a interrogé des patrons étrangers sur pourquoi ils venaient en France. Ils disaient, on attend du gouvernement qu'il fasse un plan de relance massif. En fait, ils ont tous envie que l'État soutienne l'économie à coups de milliards. Et alors, chacun d'ailleurs va frapper à la porte de Bercy pour avoir son chèque. Donc, vous avez vu, l'automobile, ils ont eu un plan de relance de 8 milliards. le tourisme a eu un plan de 18 milliards. Et puis, il y a eu, pendant le confinement, mieux que ça. Les salariés ont été payés par l'État avec le chômage partiel. Vous savez que pendant le confinement, on a calculé que 40% des adultes étaient payés par l'État. Donc, vous voyez, on n'est plus très loin de la soviétisation, hein, pour utiliser des grands mots, de l'économie.
Attends, Axel, c'est bien gentil, mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Par exemple, les plans de soutien à l'automobile, il faut qu'il y ait une relocalisation en France. On va pas, enfin, donner de l'argent, c'est très bien pour pousser, mais...
Oui, alors vous avez vu, elles ne sont pas terribles, elles ne sont pas très exigeantes, les contreparties.
C'est pas très contraignant.
Non. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, quand tout va bien, elles disent, mais écoutez, on va délocaliser, vous nous embêtez avec vos taxes et vos
quand
impôts.
Quand tout va bien, elles sont de droite, et quand tout va mal,
exactement,
elles sont de gauche.
Exactement, voilà. On ne dit pas qu'on est de gauche, on dit qu'on est keynésien. C'est-à-dire qu'il faut relancer l'économie en ne lésinant pas sur les déficit, etc. Et puis on remboursera plus tard quand ça ira mieux. Il y a une autre façon de résumer ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on privatise les gains. Quand tout va bien, vous nous foutez la paix et on gagne tout notre argent avec le minimum d'impôts. Et quand tout va mal, on socialise les pertes, c'est-à-dire que là, on partage avec le bon peuple les pertes monstrueuses que nous sommes en train d'accumuler. Et c'est comme ça qu'on va avoir une dette qui va passer à 120% du PIB.
C'est bien, Axel. Vous tenez le bon bout. Je sens que vous virez.
Voilà,
vous virez
je vais virer conseiller économique de Philippe Martinez.
C'est très bien, Axel.
C'est pas bien. Terrible comme positionnement. Moi.
Alors.
Oui, une fois qu'on a fait ce constat...
Terminé.
Ouais, non, mais
c'est terminé. C'était ma chute finale. Pas la lutte, la chute finale.
C'est la chute.
On privatise les gains et on socialise les pertes.
Très bien.
Et une question quand même. Est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez juste rappeler Keynes, qui c'était et quelle était sa théorie principale?
Et c'est pas un guignol, comme vous le présentez. Keynes, c'est quand même un gros pont de l'économie.
C'est un économiste du début du XXe siècle.
Exactement.
Qui disait que quand l'économie est à plat, c'est le rôle de la puissance publique que de faire du déficit, de réinjecter de l'argent dans le secteur, ça va faire retourner l'entreprise. Du coup, les entreprises vont faire des bénéfices, elles vont payer des impôts et l'État va ainsi se rembourser.
Oui.
Et ça a été la grande théorie à la mode du XXe siècle, au point que Nixon, parce qu'il était plutôt gauchiste au début, mais Nixon, président de droite, a dit au début des années 70, nous sommes tous keynésiens. Donc pour dire que c'était très mainstream autrefois.
Exactement. Et il faut rappeler que le keynésianisme a fonctionné beaucoup
et ensuite,
plus que
est
beaucoup
arrivé
plus que le néolibéralisme.
À l'époque libéralisme Reagan
oui,
on a
qui a beaucoup moins bien marché.
Keynes s'est pris une balle dans la nuque pour citer Geoffroy Route-Bézieux.
Exactement. Merci Axel de Darley. Peut-être pour enfoncer le clou et prouver à Olivia que vous êtes vraiment devenu de gauche, un dernier mot anticapitaliste.
La chute de la bourse, j'en ai rien à cirer.
Oui, Axel.
Éric Cresson. 1980.
Europe 1, 16h 18h, l'équipe est sauvage. Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Chaque week-end, revivez les meilleurs moments de cette équipe sauvage emmenée par Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock et des journalistes d'Europe 1. Le 30 janvier dernier, Emmanuel Duteil évoquait le Bhoutan et son couple royal, les Kate et William de l'Himalaya.
Détente trieuse pour vous, compétition fiévreuse pour eux, vous écoutez l'équipe sauvage. Anne Goscinny qui publie le 4e tome du Monde de Lucrèce est l'invité arbitre de notre grand concours quotidien opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre savoir. Et parmi ces valeureux journalistes, un champion hors norme, capable, lorsque le journalisme ne paye plus, de se reconvertir humoriste. Et de faire carton plein. Mardi, Emmanuel Duteil a vite compris que tout le monde se foutait allègrement de son sujet sur la duchesse du Luxembourg qui n'était pas très gentille.
Voilà,
grande duchesse, on s'en fout toujours autant. Il aurait pu s'effondrer, non. Il a retourné la situation à son avantage en transformant sa chronique en sketch. Je dis chapeau l'artiste.
Selon la presse luxembourgeoise, on pourrait arriver jusqu'à l'abdication du grand.
Non,
duc.
Mais non.
Si. Oui, ça la fout mal quand même quand le Premier ministre vient comme ça enquêter. Mais je sens que vous vous moquez complètement.
Mais non,
ah non, il faut tenir jusqu'au bout, Emmanuel.
On veut connaître la fin.
Jusqu'au bout. Hein.
Bah à la fin, je peux pas vous la raconter.
Et il pouvait même pas nous raconter la fin. Anne Goscinny, l'heure est venue d'écouter le nouveau phénomène du stand-up. Emmanuel Duteil, après le Luxembourg, aujourd'hui direction le Bhoutan. Carrément. Ouais,
j'espère que je vais pas vous déclencher le même fou rire que je vais réussir à aller au bout de ma chronique, parce que je vous préviens d'avance, il y a pas plus de fin que dans l'autre. Hein. Là, je réponds vraiment à une demande générale de la rédaction de vouloir aller au Bhoutan. C'est pour ça que je vous y emmène. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Bhoutan et pourquoi je vous parle de ça? Déjà, vous savez où c'est le Bhoutan? C'est
dans l'Himalaya.
Voilà, c'est un petit royaume himalayen qui est aux confins de l'Himalaya, juste à côté de la Chine et de l'Inde. C'est un tout petit pays, il y a 800 000 habitants. Et si je vous emmène là-bas, c'est qu'il y a là-bas donc le Kate et William de l'Himalaya. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que le couple royal est beau et jeune. Il a succédé à son père qui a abdiqué et qui vit toujours. Il est marié à une roturière de 10 ans, sa cadette. Hein, c'est pour ça qu'on les compare aussi à Kate et William. Ils ont un petit bonhomme qui est formidable, qui va avoir 4 ans d'ici quelques jours. Et ils vont avoir et ça a été l'événement il y a de cela maintenant quelques jours au royaume du Bhoutan, ils vont avoir un deuxième enfant, puisqu'on attendait que ça arrive. Par ailleurs, si vous voulez aller au Bhoutan, qui est un pays magnifique, vous ne pourrez pas rater le couple royal, au moins à votre arrivée à l'aéroport. Alors c'est un tout petit aéroport, il y a très très peu de liaisons aériennes pour aller au Bhoutan, mais vous avez le portrait du roi et de la reine dès que vous arrivez dans ce petit aéroport de la capitale du Bhoutan.
Si vous dites, Emmanuel, que ce sont un peu les Kate et William de l'Himalaya, c'est qu'ils sont très modernes, c'est pour ça ?
Oui et non, parce que le Bhoutan, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, le savent, c'est un pays extrêmement traditionnel, et c'est quasiment inscrit dans les gènes du pays que ça reste très traditionnel. La télé est arrivée très très tard au Bhoutan, Internet est arrivé très très tard, mais volontairement, parce qu'ils veulent vraiment rester ancrés dans leur tradition. Et peut-être que l'élément qui le montre le plus, c'est que une grande partie de la population, et notamment la famille royale, est toujours habillée en tenue bhoutanaise. Pour les hommes, ça s'appelle le go. C'est un vêtement qui oscille entre le kimono et le kilt. Alors, petite anecdote, le roi du Bhoutan est le seul à pouvoir porter la couleur jaune, parce que c'est la couleur royale. Donc, c'est le seul qui peut avoir des langes jaunes qui se rajoutent.
Si on se pointe, par exemple, avec un kimono jaune, comme j'en ai beaucoup dans ma garde-robe, à l'aéroport du Bhoutan, on est débouté.
Alors, ça, je sais pas, parce que si vous êtes un étranger, c'était nul. Mais je croyais que vous alliez me faire un truc comme Bhoutan train et tout ça aussi. Mais bon.
Ça, j'ai pas osé.
Vous n'avez pas osé, mais vous avez raison, parce que je crois qu'il n'y a pas de train en plus au Bhoutan. Et pour les femmes, ça s'appelle la kira, cette tenue. Là encore, c'est magnifique. Hein. C'est une jupe longue qui tombe jusqu'aux chevilles. Généralement, c'est en soie, c'est très coloré, c'est très joli. Alors, ça, c'est pour le côté très traditionnel. Donc, c'est en cela où vraiment, ils incarnent un pays très traditionnel. Mais pourtant, comme je vous disais, c'est un pays très moderne, notamment dans sa communication. Alors, je vous ai dit, il y a 800 000 habitants, mais la reine, par exemple, a 150 000 habitants sur son compte Instagram.
150 000 habitants sur un compte Instagram.
150 000 abonnés.
C'est beaucoup.
150 000 abonnés.
C'est petit, 150 000 téléphones. Alors imaginez, voilà. Tous ces 150 000 personnes qui tiennent dans un tout petit...
150 000 abonnés, dont moi, donc sur le compte de la reine du Bhoutan. Les photos sont magnifiques. Et ils ont tous les deux étudié à l'étranger. Ils sont allés, je crois, à Oxford, notamment en Grande-Bretagne.
Et c'est juste une monarchie de représentation, comme en Grande-Bretagne.
Pas du tout. Pas
non,
du tout. Pas
il
du
dirige,
tout.
Quoi.
Le roi commande véritablement. Alors, on est passé à une monarchie constitutionnelle depuis quelques années. Avant, c'était vraiment le roi qui dirigeait tout, mais ça s'est ouvert. Et le roi, par ailleurs, le roi actuel, a rompu avec une tradition qui commençait à s'estomper dans la société, mais qui malgré tout existait. Lui a dit, dès le démarrage, je n'aurai qu'une seule femme, puisque son père, là encore c'était quand même assez rare, s'était marié avec 4 sœurs. Il y avait eu une cérémonie unique où il avait sacré les 4 reines. Donc ça, c'était assez
original.
Étonnant. Très original. Mais voilà, pourquoi je voulais vous parler du Bhoutan.
Une bien belle conclusion. Merci Emmanuel Dutheil pour cette chronique des paysans. Anne Goscinny, sentez-vous libre de voter pour lui ou pas, comme il le dit lui-même.
Vous seriez pas la première à avoir envie, mais à ne pas le faire.
C'est sûr.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec bien sûr Mathieu Noël pour conduire cette équipe est sauvage et sa grande complice Eva Rock. Alors, cette semaine, Tatiana de René, la romancière qui vient de publier Les Fleurs de l'Ombre et qui est également la marraine de la Ligue des auteurs professionnels, est revenue sur la sortie de son roman juste avant la fermeture des librairies, mais aussi sur la situation précaire des auteurs.
Il n'y a pas que les restos et les bars qui rouvrent, il y a aussi l'équipe est sauvage. Oui Eva, c'est l'événement avec nous en studio pour la première fois depuis 3 mois et demi.
Oui.
Un invité.
Et que j'ai dévoré.
Son livre, vous avez dévoré son livre, car notre invité est une invitée, l'écrivaine Tatiana de René. Bonjour Tatiana.
Oh, bonjour.
On est, mais alors vraiment, sincèrement ravis d'avoir quelqu'un avec nous dans ce studio.
Et moi alors.
Et vous, est-ce que c'est votre première émission déconfinée
mais
aussi?
Mais oui. J'en pouvais plus tout faire de chez moi. J'en peux plus, ne me dites plus le mot Skype, ni Zoom, ni Teams, ni Instagram Live, c'est fini.
Alors on devait vous recevoir mi-mars au moment de la sortie de votre livre Les Fleurs de l'Ombre, mais malheureusement le confinement a été imposé. On se rattrape donc aujourd'hui, on va revenir en détail tout au long de l'émission sur ce roman palpitant et futuriste intitulé Les Fleurs de l'Ombre. Mais d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on ressent quand le livre sur lequel on a bossé pendant des mois,
pendant des années parfois même,
pendant des années, sort et il a 2 jours de vie en librairie, c'est un moment terrible.
Ah, ça a été absolument atroce, je vous cache pas que j'avais pas compris en fait, j'ai pas tout de suite
compris. On l'a pas vu venir.
Non, le livre est sorti le 12 mars et les librairies ont fermé le 14 mars. Donc on ressent une sorte de deuil en fait, de tristesse absolue. Et après je me suis dit mais non, je peux pas me plaindre, ce qui se passe autour de nous c'est tellement plus grave, ce virus, tout ce qui se passe, l'économie. Donc j'ai essayé de penser à autre chose, j'ai essayé de passer à autre chose, mais je vous assure que c'était pas facile du tout.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Alors, Tatiana Dronet est avec nous pour son livre « Les fleurs de l'ombre » dont on va longuement parler dans cette émission. Un mot, vous disiez, il y en a marre des Facebook Live, des Instagram. Vous avez été très productif pendant le confinement. On sent que vous avez un lien très intime avec vos lecteurs.
Oui.
Et comment vous l'entretenez? Et surtout, comment, quand on est un écrivain star comme vous, comment où est-ce qu'on place la limite? C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, j'essaie de m'imaginer grand écrivain en contact avec mes lecteurs.
Est-ce que vous allez boire un café avec vous? Voilà, c'est ça.
Ou est-ce que vous avez des règles, genre, on peut parler, mais jamais de rencontre physique, jamais de... Je ne sais pas.
Comme dans la langue, d'ailleurs.
J'ai appris à faire attention, parce que c'est vrai que quand on dit... où on habite, ou qu'on met des photos peut-être un peu trop personnelles. Parfois, j'ai trouvé des lecteurs en bas de chez moi. Ça amusait pas du tout mon mari.
J'imagine.
Donc, j'ai fait attention. J'ai d'ailleurs des Instagram privés et perso.
Bien dissocié. Voilà. Nicolas ?
Misery, c'est ce roman de Stephen King où une lectrice, justement, prend en otage un écrivain pour lui faire réécrire une histoire. Vous avez déjà eu des trucs comme ça un peu flippants ?
Non, mais j'ai souvent des gens qui veulent absolument que j'écrive leur vie.
Ah bon ?
Je reçois énormément de courriers, de mails. Chère Madame Dornay, voilà, il m'est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, une fois sur 50, c'est effectivement assez extraordinaire. Mais la plupart du temps, ce n'est pas extraordinaire du tout. Et donc, il faut avoir beaucoup de tact pour dire, écoutez, cher monsieur, chère madame, votre histoire n'est pas très intéressante. Donc, je dis en général que je n'ai pas beaucoup de temps. Oui. Et je repasse la balle à quelqu'un d'autre.
Et là, vous voulez donner un petit manuscrit, un début de roman.
Je ne vous écrirai jamais, Tatiana.
Voilà,
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour vous décrasser les zygomatiques sans faire offense à vos cerveaux. 2 heures aussi pour apprendre à mieux connaître un invité, des invités qui ont vécu le confinement de manière très différente. Elise Moon, par exemple, qu'on entendait tout à l'heure, clairement, n'en pouvait plus.
Ouais, il faut sortir, il faut que je couche avec quelqu'un parce que là, c'est pas possible. Les plantes, vous savez, ça va 5 minutes.
Notre invitée du jour, première invitée de retour physiquement en studio, elle semble avoir mieux vécu ces mois confinés, en tout cas si on voit votre activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez été très prolifique pendant cette période? Est-ce que c'est signe que vous l'avez bien vécu ou au contraire que vous aviez besoin d'occuper ce temps?
C'est vrai que j'ai quand même été très angoissée par cette histoire de virus. Nous tous, hein, on regardait les nouvelles tous les soirs. On ne pouvait pas s'empêcher d'être absolument glacé par ce qu'on voyait. Donc les réseaux sociaux m'ont permis d'exprimer peut-être quelque chose d'un peu plus léger. Mais moi, j'ai quand même beaucoup souffert de ne pas avoir pu voir mes parents et mes enfants. Donc je tiens à le dire, hein, c'était moins tragique qu'Elise Moon qui visiblement a vécu une rupture. Mais moi, ne pas pouvoir serrer mes enfants dans mes bras et mes parents, ça a été très dur.
Alors, on va parler maintenant de ce roman très réussi qui est sorti en librairie 2 jours avant le confinement.
Oui.
Les fleurs de l'ombre.
Je précise que maintenant, il est disponible.
Ah, bah,
hein. Il
là,
est sorti de son confinement.
Là, vous pouvez y aller, les librairies sont ouvertes. Vous y décrivez un futur proche, pas très lointain.
Dans 15 ans.
Dans 15 ans, voilà. Donc, c'est quand même très proche. Votre héroïne, Clarissa Katzeff, est une romancière franco-britannique. Comme vous.
Après oui, mais ça s'arrête là.
Après un choc sentimental, elle décide de quitter son mari. Elle doit alors trouver un nouveau toit. Et elle est très heureuse quand elle apprend qu'elle peut emménager dans une très convoitée et ultra-moderne résidence réservée aux artistes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre sans trop dévoiler.
Je dirais que c'est une exploration d'un futur très proche à travers la paranoïa d'une romancière fragile qui a vécu toutes sortes de traumatismes, on va comprendre lesquels petit à petit, et elle pense être très à l'aise et très heureuse dans cette nouvelle résidence artistique, hyper connectée, hyper moderne. Elle a quitté son mari, elle est à fleur de peau, et elle va se sentir espionnée. Moi, j'avais envie d'explorer dans ce livre comment l'intelligence artificielle s'infiltre dans nos vies à tous les niveaux. Et donc, je me suis un peu lâchée.
Eva.
Et alors, on est dans un décor de Paris en pleine canicule, et je voudrais juste lire quelques mots, page 257. Et ces 10 dernières années, Paris avait connu une succession de canicules, précédées d'angoisses, de conjonctures et d'élucubrations. Celle qui approchait ne durerait que 48 heures, mais exploserait supposément tous les records. Elle serait dévastatrice. La présidente avait même décrété un jour chômé exceptionnel. Le ministre de la Santé exhortait les Parisiens à rester chez eux. Des lieux climatisés seraient accessibles à ceux qui en auraient besoin. Des drones distribueraient de l'eau dans des points de ravitaillement. Les services d'urgence étaient en alerte. Les trains ne rouleraient pas, car les équipements ferroviaires pourraient être déformés par la chaleur. Seuls quelques avions décolleraient. Les transports en commun circuleraient en effectif réduit. Voilà, on est dans ce contexte-là. Et sincèrement, j'espère, parce que sinon vous êtes responsable de ce virus. Mais quand vous savez ce que vous avez écrit, ce qu'on vient de vivre, comment vous vous situez dans tout ça?
Alors, il faut quand même que je vous précise que le livre d'avant, Sentinelle de la pluie, mettait en scène une crue de la Seine.
Oui, tout à fait.
Et à chaque
de
fois,
nos jours. Êtes... Et donc, au moment où il est sorti, la Seine a débordé.
Exactement.
Donc, j'ai décidé d'écrire...
Faites très attention au prochain, hein, Tatiana.
Voilà. J'ai décidé d'écrire un roman animalier qui se passe sur une île déserte où il ne se passe rien. Les gens tombent amoureux.
Ah oui.
Il se passe rien. Voilà.
C'est parfait.
Je rigole, bien sûr.
Oui, vous êtes incapable d'écrire un
feel-good
book.
Moi, ça, je suis dans le feel sad, feel scared, feel... Moi, je préfère faire frémir, faire peur, faire réagir, que d'écrire des histoires d'amour, même si je respecte beaucoup les gens qui écrivent des très belles histoires feel-good. Mais le jour où j'écrirai un feel-good, je pense que j'aurais subi une lobotomie.
D'accord, on s'en inquiétera ce jour-là, alors.
Mais vous écrivez des livres érotiques.
J'en ai écrit, ouais.
Qui ont été...
Vous les avez lus ?
Non, ben, je ne sais pas, parce qu'ils ont été publiés sous anonymat, enfin sous pseudonyme,
oui,
pardon.
Sous pseudo, ouais. On ne saurait pas.
Elena Ferrante.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Informer et divertir, telle est la mission de Mathieu Noël chaque après-midi de 16h à 18h sur Europe 1. Sur Europe 1, vous écoutez les meilleurs moments. Alors, ce mercredi, le consultant scientifique Alain Sirou a passé en revue les solutions pour faire du tourisme spatial. En effet, il a fait le tour des offres déjà ou bientôt disponibles pour vous permettre d'avoir la tête dans les étoiles. Et il y en a pour toutes les bourses.
Olivia Ruiz est notre équipière sauvage cet après-midi pour fêter la sortie de son tout premier roman, La commode au tiroir de couleur chez Lattès. Lui aussi, il avait une commode dans sa chambre d'enfant. Les tiroirs n'étaient pas de couleur, mais dessus trônait fièrement, bien calé entre sa collection de Penthouse et de Playboy, la réplique d'Apollo 11. D'ailleurs, même si plus tard Alain Sirou devait se marier, et même encore plus tard draguer Farah Kestri, il resterait toujours marié avant tout avec la science. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est finalement rien passé avec Farah.
Oui, c'est vrai qu'avec son petit corps velu, ses yeux exorbités, c'est vrai que c'est quasi impossible de pouvoir l'attraper.
Oui, difficile de l'attraper. Mais Alain Sirou n'a qu'un seul rêve, s'envoyer en l'air tout seul, ou à la limite avec Elon Musk. Or, ça va bientôt devenir possible. Le tourisme spatial, Alain, on y est.
Eh bien, écoutez, on va essayer. Hein. C'est pour ça que je vais tenter d'ouvrir une petite agence de voyage spatial et vous pourriez être mes premiers clients. Alors, je voudrais vous faire quelques petites offres, hein, si vous voulez bien.
Allez-y.
J'ai démarré par le haut de gamme, une offre prestige pour vous, avec un voyage autour de la Lune, organisé par SpaceX. Alors, l'annonce, c'est 2023. Vous partez à bord d'un vaisseau qui n'est pas encore très bien connu.
C'est un peu angoissant quand même.
Oui, mais il y a déjà des réservations. Il y a un milliardaire japonais qui s'appelle Yakuza Maiza, qui est un designer de vêtements, qui aurait, paraît-il, signé, puis il va emmener des artistes à bord, peintres, créateurs de mode, réalisateurs, etc. Bon, c'est un petit peu cher. C'est entre 2 et 3 milliards de dollars, d'après l'annonce que j'ai pu avoir.
Quoi ? Attends, mais le ticket, c'est 2 milliards, mais 2 milliards, c'est beaucoup trop, Alain.
Oui, 2 milliards, c'est beaucoup, mais vous savez, les prix sont... C'est environ, hein, le viron étant une assez bonne unité de mesure pour les prix du spatial. Donc, comme je sais que c'est un petit peu cher, je vous ai gardé une offre plutôt haut de gamme. Un hôtel en orbite, ça vous tente, ça ?
Un hôtel
accroché à la station spatiale.
Ah, c'est pas mal.
Il y en a un qui va être construit, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et vous savez que son intérieur est designé par Philippe Stark, le fameux designer français. Ça ressemblera, d'après ce que j'ai pu voir, à un cocon, une espèce d'œuf, avec de grandes fenêtres sur la Terre. Bon, le voyage de 10 jours, il faut quand même s'entraîner pendant 6 mois et ça coûte à peu près 55 millions de dollars.
Ah, mais là, c'est plus abordable.
Attendez,
il faut compter combien vous touchez par livre. On va compter.
Je ne sais pas, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, c'est une vraie question.
Non, mais 55 millions de dollars, disons qu'on gagne l'euro million, c'est le rêve d'une vie. On peut faire ça.
C'est encore faisable. Il y a 7 milliardaires qui l'ont déjà fait à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, je vous ai gardé encore une petite offre découverte, restons haut de gamme, avec justement la capsule Dragon qui est partie le week-end dernier, qui devrait emmener pour à peu près 60 millions de dollars par individu des passagers touristes à 800 km d'altitude, c'est-à-dire deux fois l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Et là, c'est facile, vous vous installez dans le siège, vous vous laissez porter, vous regardez par le hublot et vous voyez la Terre, cette boule extraordinaire, toute bleue, parfaitement roulée sous vos pieds. Ça peut durer quelques jours environ, toujours la même unité de mesure. Et là, pour 60 millions de dollars, c'est pas si mal. Bon, si vous avez un budget un peu serré quand
ouais,
même...
Oui, on est plutôt serré comme ouais. budget. Déjà qu'on a du mal à partir au Portugal.
Surtout
alors,
moi.
Alors dans l'espace, je sais pas.
Alors, je vous propose de toucher l'espace sans faire le tour de la Terre, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un vol suborbital. Alors là, vous avez...
Ça sent l'arnaque, ça.
C'est-à-dire que vous êtes expédié à 100 km d'altitude, un peu comme si on lançait un caillou.
Avec une catapulte.
Et puis, pendant quelques minutes... Vous flottez, vous regardez la Terre et puis vous retombez. Alors là, il y a deux possibilités.
Soit vous vivez, soit vous mourrez.
Il y a une liste d'attente. Hein. Il y a déjà 600 personnes inscrites.
Et ça, c'est combien ?
Alors, ça coûte 250 000 dollars.
Ah là, on est presque dans l'abordable. Enfin...
C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et puis vous pouvez voyager aussi avec Jeff Bezos bientôt. Ça sera 6 passagers, ça s'appelle Blue Origin. Et là, c'est à peu près 200 000 dollars. Bon, et puis si vous êtes vraiment fauché parce que vous bossez à la télé ou à la radio, dans le blague, mais... Je vous propose une offre découverte de l'apesanteur de l'espace. C'est-à-dire, vous faites finalement un petit voyage en avion. Vous partez de Bordeaux-Mérignac à bord de l'Airbus 310. Pardon. C'est la compagnie R0G qui a été créée par l'astronaute Jean-François Clairvoy. Et là, vous faites un vol parabolique. C'est-à-dire que vous montez en avion, puis l'avion chute. Et pendant 30 secondes, vous flottez.
Et on vomit.
Alors, visiblement, Eva l'a fait.
Ça coûte 6 000 euros. Ouais.
6 000 euros, ça dure combien de temps pour 6 000 euros? On se fait combien d'apesanteurs?
Ça dure à peu près une heure. Vous faites des vols de 0G de 25 à 30 secondes pendant lesquelles vous flottez. Et ça, c'est plutôt rigolo. Il y a plus de 11 000 personnes qui l'ont fait. Et j'ai gardé quand même une petite chose en finale, c'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout d'argent, vous pouvez croire au hasard. Et il y a un Suisse qui a proposé de créer une petite société qui s'appelle Swiss Space Tourism. Vous vous inscrivez pour 100 francs suisses, et là, s'il atteint 25 000 cotisants, alors il va offrir, entre guillemets, 5 places tirage au sort, puisque c'est à peu près le coût du voyage spatial en suborbital. Et si vous avez de la chance, eh bien pour 100 francs suisses, vous pourriez peut-être atteindre
l'espace. Ça, Alain, gagner. C'est un mail que vous avez reçu, ça s'appelle un spam. Hein. C'est comme les autres mails avec écrit énergie au pénis, ça ne va pas marcher non plus. Donc, pas la peine d'envoyer d'argent, ni 100 francs suisses, ni même 1 franc suisse. C'était une chronique intéressante. Merci Alain Sirou. Eva, qu'est-ce qui vous manquerait le plus, vous, dans l'espace?
Le sexe, évidemment.
Ah oui, je suis bête.
Ouais. 16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes d'Europe 1, ici en l'occurrence Hélène Kohl, qui nous a proposé cette semaine une émotion culinaire en Bavière. Voici l'arrivée dans les assiettes de la Brizza, hybridation de la pizza et du bretzel. C'était ce jeudi sur Europe 1, en présence de la romancière et scénariste Amanda Sterz.
La romancière et scénariste Amanda Sterz est avec nous cet après-midi pour évoquer son dernier roman, Lettre d'amour sans le dire. Alors qu'on va partir à Berlin retrouver notre correspondante en Allemagne, un mot Amanda de votre trajectoire personnelle. Vous vivez aujourd'hui, si j'ai bien compris, entre la France et les États-Unis. Vous avez ressenti à un moment de votre vie le besoin de vous éloigner de la France ?
Un mélange, un besoin de m'éloigner, mais aussi pour des raisons professionnelles. J'ai commencé à tourner des films en anglais. C'était quand même plus simple d'être là-bas, à Los Angeles. Voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, mon cœur balance entre les deux pays.
Vous pensez vous établir dans un des deux pays à terme ou vous pensez toujours faire la navette entre les deux? C'est agréable d'avoir un pied de chaque côté de l'Atlantique.
C'est pas si simple, mais c'est un peu loin. Oui. J'ai des enfants grands. L'aîné, qui a 16 ans, va partir à l'université aux États-Unis, là, en août. Du coup, je m'imagine pas être si loin de lui. Donc, je pense qu'en tout cas, pour quelques temps, avec son petit frère, on sera à Los Angeles et puis on verra une fois que le petit sera grand aussi. Voilà. Donc dans 3 ans, quand les deux commenceront leur vie sans maman, je réfléchirai à où je veux être. Ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, c'est compliqué pour moi.
J'ai cru que vous diriez si Donald Trump est réélu, c'est sûr.
Si Donald Trump est réélu... je pense qu'il faut quitter la planète. C'est le problème du président des États-Unis, c'est qu'il a un impact sur le monde entier. J'ai bien peur que ce soit une possibilité.
Ouais.
Alors Amanda, je vous propose maintenant de prendre la direction de l'Allemagne, retrouver la plus délurée des journalistes européens, notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl. Aussi connue pour ses papiers que pour ses folles soirées dont je rappelle la devise.
Tout ce qui se passe à l'intérieur reste à l'intérieur, personne n'en saura jamais rien.
Hélène, après les émotions nocturnes la dernière fois, vous nous parlez cet après-midi d'une émotion culinaire. Ça existe en Allemagne.
Oui, effectivement, je voudrais vous parler de la brizza, un mélange bretzel et pizza. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'il a quand même fallu attendre 2020 pour voir apparaître cet hybride c'est dommage, de la cuisine part. Mondialisée. Puisque sur le principe, en fait, c'est pas idiot, hein, la pâte qui sert à fabriquer les gros bretzel moelleux en Allemagne, elle est déjà utilisée pour faire des petits pains ou des croissants et ça marche pas mal. C'est croustillant au-dessus et puis assez blanc au cœur. Ça gonfle bien, donc pour faire un fond de pizza, pourquoi pas ? Mais Jennifer et Sacha Zeller, le frère et la sœur qui tiennent le restaurant.
C'est une autre trajectoire. L'un a décidé de devenir une star de l'écriture, les autres d'inventer la pizza pretzel. C'est deux voies.
Exactement. Alors eux, ils tiennent le restaurant Wurstbendel dans le nord de la Bavière et ils ont poussé le concept vraiment loin parce que sur leur brizza, pas de sauce tomate, mais la fameuse moutarde sucrée bavaroise et surtout des tranches de saucisse blanche typique de Munich, la Weisswurst. Alors en bavard, on dit Weisswurst. Alors, vous pouvez aussi avoir une brizza avec un supplément asperge, puisque les Allemands, vous le savez maintenant, quelle après une idée. De mes chroniques, adorent les asperges, ou bien une version avec de la choucroute.
et pourquoi est-ce que ça a mis l'Allemagne en émoi ?
Alors, il y a ceux qui d'abord ont crié au génie.
Le terme paraît pas galvaudé, effectivement.
Voilà. Et puis, il y a les puristes, parce que cette fameuse saucisse blanche, normalement, elle n'est jamais servie en tranches. La tradition veut qu'on la mange en l'aspirant par les extrémités. Et en plus, il faut savoir que les deux restaurateurs viennent du nord de la Bavière, c'est la région de la Franconie, qui historiquement ne fait pas partie de la Bavière. Alors, les régionalistes dénoncent une appropriation culturelle.
Oh là là.
Il n'y a jamais eu autant de passion. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est drôle tous ces passions parce que quand une célèbre marque de pizza surgelée avait lancé il y a quelques années la pizza kebab, il n'y avait pas eu autant de débats. Car oui, les Allemands ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ce sont les rois du métissage culinaire. Ils adorent revisiter les classiques comme notre bonne vieille baguette, hein, qu'ils s'évertuent à vouloir servir frottée d'ail et recouverte de fromage râpé, le tout gratiné avec un petit drapeau français planté dessus, comme ça fait authentique, vous voyez.
C'est pas très français, mais moi, ça me fait envie.
Ah
et pourtant, après toutes ces années en Allemagne, vous, Hélène, vous nous dites qu'il y a des alliances qui méritent d'être explorées.
Alors, tout à fait. Alors, par exemple, les mouillettes pour les œufs à la coque. Il faut savoir que les Allemands ne trempent généralement absolument rien, ni dans leur soupe, ni dans leur café, ni dans leurs œufs. De toute façon, c'est impossible de trouver une bonne baguette ici. Et donc, il a fallu improviser. Je vous donne donc ma solution franco-allemande, testée et approuvée, les mouillettes faites avec du bretzel. Mais voilà, avec les bretzel. Parce que
vous êtes passé du côté obscur de
la force. Non. Vous brisez ces jolies courbes. Vous voyez, le bretzel, il est tout rond comme ça. Et cette forme allongée, elle s'adapte parfaitement à la trempette dans l'œuf à la coque. En plus, certains bretzels sont vendus garnis de beurre à l'intérieur, donc on touche quand même la perfection de la mouillette. Et autre métissage assez convaincant, ce sont les fromages français avec les pains allemands. Parce que, bon, alors en France, on sait qu'il y a, je crois que le Centre National Interprofessionnel de l'Industrie Laitière dit qu'il y a 1200 sortes de fromages différents en France. Et bien, il faut savoir qu'en Allemagne, elle propose 3200 sortes de pains.
Et pain donc, qui est mangeable. C'est ça qui est quand même incroyable avec les Allemands, quoi. C'est fou.
Alors, justement, il y a quand même de quoi jouer avec les saveurs dans un bel esprit de rapprochement entre les peuples. Par exemple, je recommande le Roquefort avec le Pumpernickel bien noir. Ça marche très, très bien. Et ça serait d'ailleurs la revanche de ce petit pain compact avec un petit goût de chocolat derrière. Parce qu'on raconte que pendant la campagne militaire de Napoléon en Westphalie, les soldats français, comme vous, ont trouvé ce pain vraiment très mauvais. Ils disaient qu'il était juste bon pour nickel. Et nickel, c'était le cheval de Napoléon. Et donc, ce bon pour nickel est devenu dans la bouche des Allemands un pumpernickel et un pumpernickel. C'est le mot qu'on retient toujours aujourd'hui.
Incroyable. L'origine des expressions, même allemandes. Merci. Mais dites-moi, ma chère Hélène, on parlait tout à l'heure des kilos pris pendant le confinement. Vous, avec ce menu dont vous venez de nous parler aujourd'hui, vous en êtes bien sorti là, ça va ? Vous rentrez dans vos jeans ?
L'avantage, c'est qu'à Berlin, on n'a pas été confiné de manière stricte, on a toujours eu le droit de sortir et donc de faire du sport, du sport.
Et c'est ça qui vous a sauvé.
Tout va bien.
Effectivement. Voilà. Merci Hélène Cole. Amanda Stern, est-ce que dans votre roman Lettres d'amour sans le dire, le dorayaki, la délicate pâtisserie japonaise, aurait pu être remplacé par une brizza ou bien ça aurait cassé un peu l'effet du livre ?
Pas sûr que ça aurait eu la même saveur. Incident, la même émotion. Mais,
et si ma soeur avait été allemand ? Oh mon
Dieu. Oh mon Dieu.
Ça aurait été vraiment notre livre. Merci Hélène Cole.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et on retrouvera Mathieu Noël et son équipe est sauvage dès demain, 16h sur Europe 1 pour la suite des meilleurs moments. Dans un instant, c'est le grand journal du soir avec Wendy Bouchard. Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1.